Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle édition d'Alley-Oop 360. Je suis bien content de parler des séries éliminatoires de la NBA cette semaine. Il y a des séries qui ont disputé 3 matchs, il y en a certaines qui sont rendues à 4. En fait, une qui s'est terminée très rapidement. On va analyser tout ça aujourd'hui avec Charles Dubé-Bret. Pascal Jobin, analyste NBA, va également être de passage pour discuter des séries. Donc, on va avoir deux opinions différentes sur ces mêmes séries. Ça va être intéressant. Et puis, en terminant, je vous invite à rester, à demeurer à l'écoute parce qu'on va avoir une entrevue avec Baïd Haïdara, nouvelle acquisition de l'Alliance de Montréal via le repêchage U-Sport. Donc, le seul joueur du universitaire québécois qui a été repêché par la LECB. On va lui parler de ses objectifs pour la saison. On va regarder quel genre de joueur il est. Mais avant, on va débuter avec Charles, comme on le fait toujours, pour discuter des séries NBA. Comment s'est passée ta semaine de basket? Qu'est-ce que tu as retenu, Charles?
Ben, la première ronde, c'est un moment toujours excitant dans la saison, simplement par la quantité de matchs aussi, puis de séries, parce que tu te rends compte qu'il y a plus de matchs en général en première ronde qu'il y en a dans tout le reste des séries éliminatoires après, hein. Il y a 8 séries de première ronde, alors qu'il y en a 7 par la suite. Donc tu es quand même assez bien nourri quand tu veux être critique de basket, puis que tu veux consommer plusieurs de ces séries-là. Après, c'est pas toujours les séries les plus intéressantes non plus, parce que les bons vieux combats de poids lourds s'en viennent plus à partir de la deuxième ronde, mais on a quand même été assez choyé cette année avec certains match-ups qui étaient vraiment intéressants, comme celui de Kevin Durant contre Kawhi Leonard. Bon, malheureusement, Kawhi n'a pas joué dans les matchs 3 et 4. Et c'est malheureusement un petit peu aussi ce qui est à retenir de ce début de séries éliminatoires, ce qui est un peu une continuité de la saison régulière. C'est les absences de joueurs vedettes, les blessures. Ça semble être, bon, la tendance NBA actuelle. On espère que c'est, disons, une année qui est pire que les autres, puis que ça ne sera pas la nouvelle norme, parce qu'on voyait que dans les 25 meilleurs joueurs de la NBA cette année, tu en as à peine 2 ou 3 qui ont joué plus de 70 matchs. Donc, c'est rendu la norme de jouer 65, 62, 63,
Ouais, ça descend, c'est
d'avoir des stars qui sont absentes, à qui mieux, puis de certains soirs, tu veux regarder un match en te disant, ah, ce soir, ça va être, je ne sais pas moi, Denver contre Phoenix, ça va être Jokic contre Durant, mais en général, Jokic et Durant ne joueront pas. Il y en a un des deux qui va s'absenter pour X, Y raison. Puis là, depuis le début des séries, ben, on a vu la blessure à Morant, la blessure à Antetokounmpo, Tyler Hero qui se casse la main, Joel Embiid qui n'a pas joué dans le match numéro 4, dont le statut est douteux pour le début de la deuxième ronde. Donc voilà, ça serait agréable de voir les vraies équipes, puis de voir les vraies stars s'affronter. Puis malheureusement, je pense qu'on est privé un petit peu de ça, particulièrement dans la série Phoenix Clippers, qui était pour moi l'une des plus fascinantes du premier tour.
Oui, mais c'est dommage, il y a beaucoup de blessures. Puis en effet, ça illustre un peu la NBA d'aujourd'hui. Je voyais une statistique cette semaine qu'il y a une quinzaine d'années, les All-Stars jouaient en moyenne à peu près 75-76 matchs. Et puis là, c'est descendu là, d'à peu près une douzaine de parties, donc en seulement une quinzaine d'années. Puis ça, c'est la moyenne. Donc, ça, c'est pas juste un exemple, c'est tout le monde au complet. C'est les vedettes de la NBA qui jouent moins de façon générale. J'espère que ça va se régler. J'ai pas l'impression que ça sera le cas.
La
Parce
tendance
que.
n'est pas vers ça, malheureusement.
Ouais.
Mais comme tu le mentionnes, c'est ça qui est un peu dommage, parce que c'est supposé être fait, parce que bon, dans certains cas, c'est des blessures, mais dans d'autres cas, on sait que c'est de la prévention, c'est de ne pas faire jouer les joueurs 2 soirs de suite. Mais c'est dans le but d'étirer les carrières. Mais je faisais une petite recherche récemment, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais tu regardes qui étaient les 30 meilleurs joueurs de la NBA cette saison, et combien d'entre eux sont des vieux joueurs, entre guillemets, si on qualifie d'un vieux joueur, peut-être un joueur de 33 ans et plus. T'en as pas beaucoup, hein. T'as LeBron James, t'as Kevin Durant, Steph Curry, James Harden. Bon, je pense que Damian Lillard vient de rentrer dans cette catégorie-là. T'sais, t'en as comme 5 sur le top 30, alors qu'il y a 25 ans, t'en avais le double. Donc, c'est pas comme si on prolongeait vraiment la carrière des stars, puisque la NBA est plus jeune aujourd'hui qu'elle l'était il y a 25 ans. Donc, bon, en quelque part, on ne veut pas remettre en cause ce que les médecins nous disent, mais je doute un petit peu qu'on arrive à l'effet escompté, qui est de prolonger les carrières des stars. Puis est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut voir? Est-ce qu'on veut une NBA où les joueurs sont encore là à 36 ans, plutôt que de faire jouer des jeunes joueurs? C'est une vraie question à se poser aussi.
Et parlons-en des séries qui ont été affectées par les blessures. Je pense que tu as mentionné Suns Clippers. On commencera par l'Ouest cette semaine. 3-1 pour Phoenix. Pour moi, c'est pratiquement terminé. Là, je veux dire, Paul George n'est plus là. Kawhi Leonard n'est plus là. Les Clippers n'ont pas grand-chance.
Ben, Kawhi Leonard est au jour le jour, donc à un moment donné, il va falloir qu'il joue, mais ça va être une étude de cas sur les Clippers à la fin de la saison, là, advenant qu'ils perdent cette série-là. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir Kawhi Leonard dans ton équipe? Parce qu'en théorie, regarde, on l'a vu dans les matchs numéro 1 et 2, il nous a rappelé à quel point c'est un joueur phénoménal. Il
Ouais.
gagnait largement le duel contre Kevin Durant et puis il montrait vraiment à chaque quart que c'était le meilleur joueur sur le terrain dans une série qui a quand même son lot de joueurs vedettes. Leonard, c'est vraiment pas une attaque contre son niveau de jeu qui n'a, à mon avis, pas baissé. C'est simplement que si ton équipe est construite autour de lui, écoute, si imaginons que les Suns éliminent les Clippers dans le match numéro 5. Donc, il n'aura pas été présent quand il fallait cette année. Il n'était pas présent dans les séries de l'année passée. Ils ont été éliminés dans le play-in. Il n'était pas présent dans la finale de conférence où ils ont été éliminés il y a 2 ans. Donc, ça fait 3 ans de suite qu'au moment où tu as besoin de lui, il n'est plus là. Donc, tu l'as signé il y a 4 ans. Puis pendant 3 des 4 séries éliminatoires où tu l'as eu, ben, il n'est pas là. Donc, pendant combien d'années tu décides que ton équipe tourne autour de lui? Après, je me suis pas penché sur quelles seraient les éventuelles solutions pour les Clippers. Est-ce que tu l'échanges? Est-ce qu'il y a moyen de l'échanger? Est-ce que quelqu'un en veut? Est-ce que tu donnes grand-chose contre lui, sachant qu'il va rater beaucoup de matchs? Mais bon, on est privé malheureusement d'une série qui serait probablement allée en 7 au vu de comment c'était parti. Et là, je pense qu'il y a certaines chances que Phoenix veuille terminer la série rapidement. Mais chapeau quand même aux Clippers qui se battent très, très fort. Vraiment, on a vu Russell Westbrook qui a été phénoménal encore hier. La performance de Norman Powell dans le match numéro 3. Puis c'est une équipe qui n'abandonne pas, qui donne vraiment tout ce qu'elle a. Puis ça rend quand même les matchs intéressants quand tu les regardes. Hier, c'était un match intéressant aussi. Mais tu as un peu un sentiment d'inévitabilité que Kevin Durant et Devin Booker vont avoir le dernier mot. Puis pourquoi pas Chris Paul comme c'était le cas hier aussi.
Quand on regarde les autres séries dans l'Ouest, bon, y en a une qui est sur le point de se conclure. Denver mène 3-0 contre le Minnesota. Y avait une mauvaise fin de saison régulière du côté des Nuggets. Est-ce que ces matchs-là redonnent du momentum un peu à la troupe là, du double MVP?
Oui, tout à fait. Je pense que je pense que Denver avait besoin d'une série contre une équipe contre le Minnesota pour se remettre dans le droit chemin parce qu'ils ont joué du très, très bon basket. Ils ont été en contrôle de cette série-là depuis le début. Ils ont démontré des belles choses aussi au niveau défensif. Alors qu'on sait que c'est le plus gros problème qu'ils ont normalement. Après, c'est pas que Minnesota est une attaque phénoménale non plus, mais de jouer comme les Nuggets ont joué depuis le début de cette série-là, au-delà des résultats, je pense que c'est exactement ce qu'ils avaient besoin de voir un Jamal Murray qui a eu un match de 40 points qui est à ce niveau-là. Tu sais que Jokic n'a pas été le meilleur marqueur dans aucun des 3 matchs, donc ça a été Murray les 2 premiers, ça a été Michael Porter Jr. dans le 3e. Ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Denver parce que on a besoin d'être là en équipe, on a besoin d'avoir quand même un certain niveau défensif et on coche ces cases-là en ce moment. La chose sur quoi on doute pas pour les Nuggets, c'est la qualité de leur attaque. Ça, on sait que à chaque ronde qui sent bien l'attaque des Nuggets, ça devrait être là. Mais est-ce que leur défense va être suffisante? Ça, c'est la vraie question. Puis c'est un très bon démarrage pour eux. Et s'ils peuvent se débarrasser de Minnesota rapidement pour se reposer en attendant probablement les Suns de Phoenix dans ce qui va être l'un des premiers combats de poids lourd là, de la NBA
Ouais.
entre Nikola Jokic et Kevin Durant.
Par la suite, les deux autres séries sont présentement à 2-1. Ce sont respectivement les Lakers qui mènent sur les Grizzlies et les Kings qui mènent sur les Warriors. Est-ce que les équipes en avance présentement sont celles que tu as en deuxième ronde, selon ce qu'on a vu jusqu'à maintenant?
J'avais les Lakers, c'est sûr que les choses ont été un peu faussées par l'absence de Ja Morant, mais qui a
Ouais.
mené à une contre-performance des Lakers dans le match numéro 2, qui sont arrivés absolument pas prêts mentalement pour ce match-là. Un très, très mauvais premier quart qui éventuellement leur a coûté le match. On a manqué une belle opportunité de potentiellement passer devant 3-0, là, t'sais, de se mettre dans une position d'être à 3-0 après le match d'hier soir. Il reste que les Lakers sont en contrôle de la série, mènent 2-1 avec le quatrième match chez eux. Ça va être le match charnière. Et je pense que pour moi, les Lakers vont gagner la série comme je l'avais prédit parce que l'absence de Steven Adams et de Brandon Clarke est assez préjudiciable au rebond et permet une certaine domination justement d'Anthony Davis qu'on a vu dans le match d'hier puis dans le match numéro 1 aussi. Donc ça va dans le sens où je croyais que ça allait aller. Kings Warriors, ben moi j'avais les Warriors dans cette série-là et je pense que c'est loin d'être terminé, même si les Kings
Ouais.
ont donné cette impression-là. Tu sais, des fois on s'enflamme un peu vite parce qu'une équipe gagne les deux premiers matchs, surtout quand c'est à domicile, tu sais, puis là c'est wow, la saison des Warriors, la dynastie est finie, les Kings, nanana. Ben concrètement, les Kings, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire protéger leur terrain, gagner les deux premiers matchs. Mais le grand Pat Riley disait souvent, une série, ça commence jamais vraiment officiellement avant qu'une équipe ait gagné à l'extérieur. Donc, même en menant 2-0, les Warriors, écoute, on le sait ce qu'ils ont été cette année, c'est une équipe catastrophique à l'extérieur, mais la troisième meilleure de la NBA à domicile.
Qu'on devait s'y attendre.
Ben oui, puis 33 victoires, 8 défaites, ils ont gagné plus de 80% de leurs matchs à San Francisco. Donc, même s'ils perdaient 2-0 dans la série, il y a vraiment un univers où tu te dis, ben, trois des quatre prochains matchs sont chez eux. Ils ont l'expérience de leur côté. Ils sont tout à fait capables de gagner ces trois matchs-là à domicile. Puis, dans le pire des cas, ça sera 3-3, puis ça se jouera sur un match 7 à Sacramento. Et là, peut-être que l'expérience aussi, puis la présence des Steph Curry de ce monde va faire pencher la balance pour eux. Moi, c'est ce que je voyais comme profil de série. Donc, même si j'avais dit les Warriors en 7, pour moi, c'était pas nécessairement en doute parce que les Kings avaient gagné les deux premiers matchs. La suspension de Draymond Green, bien sûr, faisait un peu peur, mais on a vu que les Warriors ont les ressources qu'il faut. Je m'attends à voir les Warriors gagner le match numéro 4. Puis je ne serais pas surpris que les deux équipes se partagent le match 5 et 6, puis que ça aille vraiment jusqu'au bout. Mais Sacramento pourrait ressentir la pression dans le match numéro 5 aussi, parce que tu mènes la série 2-0, ça semble bien aller. D'un coup, ça revient 2-2, puis là, tu te dis, ben, écoute, le match numéro 5, là, on peut pas faire de
Je
bévue
peux pas
ici. Parce que
l'échapper.
ben c'est ça, tu le perds chez toi, puis là, il faut que tu ailles gagner au Chase Center, qui va être survolté dans le match numéro 6. Donc, ça se revire vite à partir du moment où il n'y a pas d'équipe qui a gagné à l'étranger dans le début de la série. Donc, il faut faire attention du côté des Kings. Mais c'est une série qui est vraiment intéressante entre la fougue, la jeunesse, la vitesse des Kings et l'expérience des Warriors.
Du côté de l'Est, maintenant, il y a trois séries qui sont 2 à 1 en ce moment. Donc, le pointage en termes de matchs remportés. Cavs, Knicks, Celtics, Hawks et Bucks, Heat. Je te propose de commencer par Cavaliers, Knicks qui vont jouer donc aujourd'hui 13 h. Au moment où on enregistre, ce n'est pas encore débuté. Ce sont les Knicks qui mènent cette série 2 à 1. Le momentum, je dirais, de leur côté. Là, ils vont jouer à domicile.
Oui, et franchement, c'est la série la plus intéressante dans l'Est parce que c'est dur de prédire qui va la gagner, même si je donne encore l'avantage aux Cavaliers. Je ne vais pas sortir de ma prédiction. J'avais dit les Cavaliers en 7, mais je m'attendais à quelque chose de très âprement disputé. Chapeau aux Knicks d'être allé chercher le match numéro 1. Les Cavaliers ont bien répondu dans le match numéro 2. Les Knicks ont été dominants dans le match numéro 3 à domicile. Maintenant, ça va être aux Cavaliers de répondre le coup pour coup et de dire, ben, nous aussi, on est capable d'aller gagner sur votre terrain puis d'aller chercher le match numéro 4. Mais ça avait le profil d'une longue série parce que les Cavaliers, c'est une équipe qui est au début d'une courbe ascendante, tu sais, avec le talent qu'ils ont sur le périmètre. Evan Mobley, Jared Allen comme présence défensive à l'intérieur. C'est une équipe qui a un très, très bel avenir là, dans les 4 ou 5 prochaines années, puis qui pourrait vraiment compétitionner éventuellement pour des championnats NBA, mais ils ne sont pas tout à fait mûrs encore en ce moment. Et enfin, c'est une équipe qui, pour moi, est un peu moins forte, mais par le profil des équipes de Tom Thibodeau, par le fait que c'est les Knicks aussi, c'est vraiment des combattants, des équipes qui vont se battre jusqu'au bout. Et Jalen Brunson et Julius Randle peuvent leur donner une chance, là, justement, particulièrement un joueur comme Brunson avec son talent de 1 contre 1, peut vraiment être efficace en séries éliminatoires. Donc, non, c'est une série qui est très fascinante, c'est très dur à prédire. Mais je pense que Cleveland a quand même un peu de pression aujourd'hui parce que ils ont perdu un match sur leur terrain, ils n'ont pas gagné le match numéro 3. Donc là, ils sont l'équipe qui est en théorie favorite, mais tu ne veux pas te retrouver à 3-1 non plus en ressortant de New York. Donc ça risque d'être un gros, gros combat cet après-midi.
Les deux autres séries sont un petit peu moins serrées en termes de positionnement au classement, mais le pointage est le même de toute manière. Les Celtics sont en avance contre les Hawks, mais les Bucks tirent de l'arrière, bon, sans Giannis, contre le Heat. Donc, de ces deux séries-là, qu'est-ce qui ressort là, pour toi?
Ben, je vais passer rapidement sur Celtics-Hawks. Je pense que ça, c'est une série qui avait le profil du. On parlait la semaine passée du mariage de gentilhomme, là. Ben, le fameux match numéro 3 où tu as un petit relâchement sur la route, où tu as un peu moins de sentiment d'urgence parce que dans les deux premiers matchs, les Celtics ont vraiment complètement dominé les Hawks. Donc, je pense que Je m'attends à voir les Celtics gagner le match numéro 4 et terminer ça en 5 à Boston. Il n'y aura pas une volonté de retourner à Atlanta pour un match numéro 6. Mais le match numéro 4 va être intéressant parce qu'Atlanta s'est donné une chance d'égaliser la série. Mais personnellement, si j'ai à faire une prédiction, je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que Boston, sait ce qui est en jeu. C'est une équipe expérimentée aussi, hein, qui a fait la finale l'année dernière. Donc, on n'a pas nécessairement envie que la série soit très, très longue. Et je pense qu'il y a un vrai écart de niveau entre les deux équipes. La série Miami-Milwaukee, elle est devenue plus intéressante, à mon avis, de par la blessure à Giannis. Quand je dis plus intéressante, pas à mes yeux, parce que je veux que Giannis joue, mais parce que pour moi, c'était une conclusion assez évidente de dire que les Bucks allaient la gagner. Maintenant, c'est 2-1 Miami. Giannis a raté le match numéro 2, numéro 3, puis il a presque tout raté le match numéro 1, en réalité. Donc, c'est une blessure bon, qui semblait pas a priori très grave. Ça semblait être comme une contusion au bas du dos. Et Mike Budenholzer était assez optimiste après le match, comme quoi il allait être présent au match numéro 2. Ben, non seulement il a raté le match numéro 2, il a raté le match numéro 3 aussi. Donc, est-ce qu'on le préserve parce qu'on se dit, ben, regarde, tant qu'on n'est pas dans une situation où ça va mal, autant le reposer maintenant. Et peut-être qu'il va revenir au match numéro 4 parce que là, on a perdu deux matchs, puis on ne peut pas se permettre d'en perdre un troisième, ça serait trop risqué. Donc peut-être qu'on y est allé comme ça du côté de Milwaukee. T'sais, est-ce que Giannis aurait joué si ça avait été le match numéro 7 de la finale? T'sais, potentiellement que oui, puis on
Ouais,
peut vraiment le
c'est pas le même
savoir.
enjeu.
Ouais, mais c'est juste dommage parce que c'est le fun de voir les vrais joueurs s'affronter. Puis Giannis, ben, qui a été couronné en 2021, c'est le favori de la plupart des experts pour gagner le titre cette année encore une fois. Donc, voir les vrais Bucks, puis éventuellement de voir les vrais Bucks pour affronter les Celtics, les Sixers. Tu vois, moi, ça m'intéresse de voir Giannis Antetokounmpo contre Joel Embiid ou de voir Giannis Antetokounmpo contre Jason
Ben
Tatum.
oui.
Éventuellement, peut-être une finale Antetokounmpo contre Jokic ou Antetokounmpo contre Durant. Ou, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Puis si jamais on était privé des Bucks suite à cette blessure-là, je veux dire, j'ai rien contre Miami, je les respecte beaucoup, je respecte énormément Jimmy Butler, mais je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment ça l'équipe que j'ai envie de voir en finale de conférence potentiellement par rapport à la vraie puissance des Bucks? Non. Donc, ça, c'est le côté un peu dommage, mais ça a mené à une belle discussion qu'on pourra avoir dans un autre épisode éventuellement sur un autre balado parce que on parle de peut-être trouver des solutions par rapport à la faute offensive près du panier. Là, t'sais, certains ont dit est-ce qu'il faut éliminer la faute offensive parce que ça devient dangereux?
Ouais.
On a vu la chute de Giannis, la chute de Ja Morant la même journée. Il y en a qui disent, ben, et je pense que ça, c'est peut-être la vraie solution, c'est pas qu'il faut enlever la faute offensive, mais il faut peut-être élargir le cercle un petit peu qui est sous le panier, là,
C'est ça.
puis peut-être qui est à 3 pieds du panier, peut-être l'agrandir à 4 ou 5 pieds pour empêcher la possibilité que les joueurs fassent un jeu qui, et on peut se poser la question, est-ce que c'est un vrai jeu de défense que de te glisser en dessous de quelqu'un qui saute, tu sais, dans le but, en te disant, je peux pas te contester au
Pour
panier,
avoir
donc.
l'appel de faute, tu sais,
Ben oui, c'est
exclusivement.
ça. Puis quand tu y penses, il y a des gens qui s'offusquent, qui sont souvent un peu dans le passé, qui disent, ben non, c'est une façon de jouer en défense, puis il faut
Ouais.
qu'on leur fasse le droit de
Bah.
jouer en défense. Ouais, la question, c'est est-ce que c'est vraiment de la défense par rapport à un vrai challenge vertical de sauter puis d'essayer de faire rater le joueur, plutôt que de dire, regarde, je vais faire en sorte que tu as peur de te casser le poignet ou le dos en retombant, t'sais, puis. C'est un peu ça qu'on voit quand ce geste-là est fait. Il y a des statistiques intéressantes qui étaient sorties cette semaine là-dessus, comme quoi, tu sais, des passages en force en moyenne, les fautes offensives, il y en a une par match, et que ceux au panier, comme ça, les passages en force autour
Ouais,
du
autour du
début,
cercle.
ça représente à peu près 35% des appels. Donc, en réalité,
OK.
des appels comme ça, il y en a un par 3 matchs. Donc, si
OK.
on pouvait l'éliminer, puis forcer les défenseurs à faire un autre type de jeu défensif, c'est-à-dire une rotation défensive plus tôt, ou alors une vraie contestation au panier, tu sais, pour protéger un peu les joueurs de ces blessures-là, parce que effectivement, je ne suis pas un grand fan des joueurs qui se glissent à la dernière seconde en dessous, puis je ne trouve pas que c'est une façon de jouer en défense qui est nécessairement, comment je dirais,
Optimal et dans le respect du basket.
ouais, à
Ouais.
récompenser,
Ouais, je comprends.
que les arbitres vont donner le crédit au joueur qui a décidé de faire ça. T'sais. Donc, on parle de sacrifier son corps, mais je pense qu'il y a d'autres façons de sacrifier son corps aussi. Puis, je pense qu'il faut quand même penser au fait qu'on veut le côté spectaculaire du basket. Donc, je sais que les règles favorisent l'attaque, Ça en serait une de plus, mais peut-être pour moi qu'ils changent peut-être changer d'autres règles, à mon avis. Mais quand même penser à ce qu'on veut des joueurs qui sautent au panier, qui veulent dunker, qui veulent terminer les actions avec agressivité, c'est agréable à voir pour le spectateur. Et ça nous en prive un peu. Puis on l'a vu avec les blessures, ça nous fait rater des matchs de Giannis et
Ouais.
de Durant en ce moment.
Charles, le temps file, donc on va devoir aller à la pause, mais avant, je voulais mentionner que les 76ers avaient balayé les Nets de Brooklyn, donc en 4 matchs,
Pas une grosse
pas
surprise.
très compliqué, pas une grosse surprise. Ils se retrouvent, ils sont les premiers à puncher leur billet pour la deuxième ronde. Donc, bien de voir contre qui ils vont disputer cette deuxième ronde. Charles, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup de ta présence.
Yes, avec plaisir. À la semaine prochaine.
Au retour de la pause, on continue d'analyser les séries éliminatoires de la NBA, mais sous la loupe de Pascal Jobin cette fois-ci. Nous sommes de retour à l'antenne de BPM Sport, à l'émission Alley-Oop 360 pour discuter des séries éliminatoires de la NBA. On a déjà eu droit à quelques matchs dans chacune de ces séries. Il y en a une qui est terminée même, ça a été rapide. Avec Pascal Jobin, analyste NBA, on va regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et donner nos impressions un peu avec comme ce qu'on a fait avec Charles Dubébret, mais à la manière de Pascal. Donc, salut Pascal.
Salut, salut, ça va
Oui, ça va bien toi-même.
bien? Bien sûr.
On a eu droit à du bon basket au cours des derniers jours, au cours de la dernière semaine. On a eu droit aussi à des blessures et à de la controverse entourant des suspensions. Ça a été un peu compliqué, là, les 3-4 premiers matchs de la première ronde pour certaines équipes, pour certains clubs qui s'affrontent. Je voulais qu'on passe les différentes séries, qu'on puisse avoir tes commentaires sur chacune d'entre elles. J'ai envie de commencer avec bon, celle où il y a eu des matchs samedi. Commençons par, bon, tassons ça tout de suite, ça va être assez simple, je pense. Philadelphie qui balaie les Nets de Brooklyn en 4 matchs. Est-ce que tu aurais donné peut-être plus de victoires aux Nets ou ça ne te surprend pas énormément ce résultat?
Non, c'était pas mal mes attentes, honnêtement. T'sais, Brooklyn, ils ont fini sixième. Disons la vérité, Kevin Durant, Kyrie Irving a aidé Brooklyn à se positionner pour être cinq ou sixième dans l'Est, mais ils sont partis. C'est un petit peu les restes d'une saison qui était quand même pas si mauvais que ça. Puis les nouveaux joueurs, tu sais, t'as toute une nouvelle chimie. Jacques Vaughn devait dealer avec ça. Fait que moi, je m'attendais à s'il y avait une série qui finirait rapidement. Pour moi, c'était la série les 76ers. Écoute, t'as Joel Embiid qui va probablement être nommé meilleur joueur de la NBA cette saison là, sur Jokic. Puis t'as James Harden qui a déjà été le MVP de la Ligue aussi. Fait que je pense que c'était beaucoup trop en série. C'était beaucoup trop de talent du côté de Philadelphie. Philadelphie, ils s'en vont pour un championnat. Puis les Nets, c'est un petit peu. Ils se sont rendus en sixième place un peu par défaut. Tu comprends? C'était pas la même équipe qui était là. Fait que non, je suis pas surpris. C'est bon pour la franchise. C'est bon pour les Nets. On sait quoi s'attendre. Puis on a vu les jeunes joueurs, dont Johnson. Puis vraiment, c'est en train de se développer là, pour les Nets. Fait que le futur des Nets va être bon. Mais tu sais, je serais pas surpris à moins de quelque chose de spécial qui fasse même pas les séries l'année prochaine. Fait que c'est non, je suis vraiment pas surpris de la façon que Philadelphie a fini 4-0. Puis si je me trompe pas, le dernier match, ils l'ont joué sans Joel Embiid, qui est probablement là, ils ont une semaine avant la deuxième ronde. Je
C'est ça.
pense qu'ils attendent le gagnant de Boston-Atlanta. Puis je pense que du côté de Philadelphie, on prie que la série Atlanta-Boston se rende à 7 matchs pour avoir le plus de repos possible pour Joel Embiid qui a eu il y a une blessure au genou derrière le genou. Et quand c'est derrière le genou, William, selon les commentaires des médecins que j'ai lu de Philadelphie, c'est pas très bon. C'est fait que
Non.
ça pourrait même être quelque chose de très très dérangeant pour Philadelphie puis pour leur chance d'aller chercher un championnat cette année, là. Ça prend un Joel Embiid en santé.
On ne leur souhaite pas. Puis, ben, je vais bifurquer vers Boston et Atlanta. C'est une série bon, Tu me dis que ce serait positif pour eux, pour les Sixers, d'avoir cette série-là qui se rend à 7 matchs. À quel point est-ce que c'est réaliste, sachant qu'ils jouent bon dimanche soir, donc ce soir, et que les Celtics mènent présentement 2-1?
Écoute, en ce moment, l'équipe à domicile gagne le match, comme on sait pourquoi l'importance de se positionner pour que la série débute chez toi, pour être capable d'avoir au moins le 7e match à domicile. Donc, c'est Boston gagne les 2 matchs chez eux. Atlanta a fait le travail et écoute, le match numéro 3 Atlanta, là, ça a été un match avec Murray puis Trae Young là, qui ont vraiment performé. Ils ont très bien répondu à la pression. Boston, pour moi, est peut-être, je pourrais même dire, la meilleure équipe, même si on finit 2e saison régulière, là, pour moi, c'est la meilleure équipe de l'Est en ce moment. Match numéro 4 à Atlanta, pour moi, c'est le match le plus important pour Atlanta en fonction de dire que est-ce qu'on est capable de protéger l'avantage du domicile? Puis pour Boston, c'est vraiment là, pour moi, c'est le coup, là. Il faut vraiment aller chercher ce match-là. Sinon, Atlanta sont dangereux, sont jeunes, athlétiques. Jason Tatum, Jaylen Brown, un petit peu plus vieux, un petit peu plus expérimenté. Il doit faire attention au revirement parce qu'on a eu beaucoup de revirements dans le match numéro 3. Est-ce que ça peut aller à 7? Je m'attends au moins à 6 matchs.
OK.
Atlanta est capable d'aller gagner un autre. Atlanta est capable de gagner ce soir et d'aller peut-être chercher un match à Boston.
Mais de les battre sur la série au complet, là, ce serait plus étonnant.
Ça serait plus étonnant. Je vois Boston filer en deuxième ronde. On sait que Philly est déjà là. Je vois Boston filer en deuxième ronde. Puis moi, mon coup de cœur, c'est que mon joueur préféré quand j'étais jeune, c'était Dominic Wilkins. Fait que j'ai toujours aimé Atlanta, les Hawks d'Atlanta, le logo, le style de jeu. Puis c'est une équipe très, très dangereuse. T'sais, ils ont deux meneurs qui, dans 5 partants, comme je te dis, Young et puis Murray. Jason Collins, qui est quand même un joueur assez spectaculaire physiquement. C'est une équipe, ça sera pas facile. Boston va sortir de là avec des petites séquelles d'une bataille bien méritée pour gagner la série, mais je pense que Boston va être capable de passer à travers.
Et puis, quand tu regardes l'autre grosse équipe dans l'Est, en moins bonne posture, on a perdu une partie par 23 points contre le Heat, le match numéro 3. Et là, Miami mène 2-1. C'est pas un énorme retard, mais ça reste que on n'est pas dans le siège du conducteur actuellement.
Du tout. Et là, on parle de numéro 1 contre numéro 8. Miami, tu vois, Miami aurait probablement battu Brooklyn 4-0 aussi. Fait que le numéro 8, c'est un faux numéro 8. C'est plus un numéro 6. Puis le Heat, écoute, défensivement, Kyle Lowry, là, il est fatigant. Même si on a perdu Tyler Hero, je voulais le mentionner au niveau je pense que c'est son poignet. On a perdu Tyler Hero. Probablement pour la série.
Ouais, ben pour 4 à 6 semaines, hein, fait
Ouais,
qu'il
au
devrait même
moins.
pas revenir de tous les playoffs, là.
Exactement. Fait que ça, c'est une énorme perte, mais Jimmy Butler, Duncan Robinson, qui est capable de réussir 10-3 points, je m'inquiète beaucoup moins de la perte de Tyler Hero que Joel Embiid avec les 76ers, soyons d'accord. Puis la preuve, c'est que du côté de Milwaukee, ben, Giannis n'a pas joué. C'est son deuxième match, donc il a joué seulement le premier match qu'ils ont gagné. Puis les 2 matchs suivants, donc la défaite à Milwaukee et la défaite, je pense que c'était hier, ou c'était hier, à Miami. Et on sait qu'Eric Spoelstra, défensivement, si tu as des pointages dans les 90 points, probablement que Miami est impliqué dans ce match-là. OK? Très, très, une équipe très tough avec Adebayo à l'intérieur. Écoute, c'est une équipe tough défensivement. Quand ils commencent à rentrer 2-3 points, quand ils commencent à attaquer, ils vont être très durs à battre. Et ça pourrait être la surprise. Puis il y a une petite historique, William, je ne me trompe pas, avec Milwaukee dans la bubble. C'est Miami qui a battu Milwaukee pour se retrouver contre les Lakers en finale. L'année d'après, Milwaukee a battu Miami et c'est Miami et Milwaukee qui a gagné le championnat NBA. Je ne sais pas si tu t'en souviens avec Giannis. Donc il y a quelque chose à faire, là. Puis en première ronde, ton numéro 1, là, je m'inquiète beaucoup plus pour Milwaukee que pour Boston contre Atlanta, parce que Miami est, selon moi, sur le terrain, ce qu'on voit, est capable de battre
Les
Milwaukee.
Milwaukee, oui.
Mais est-ce qu'on serait 2-1 si Giannis aurait joué les trois matchs? Et c'est vraiment une énorme différence. Moi, je pense que ça serait l'inverse. Ça serait 2-1 pour Milwaukee si Giannis est en santé.
Oui, ben c'est sûr que perdre un joueur de cette ampleur-là a un impact sur le déroulement d'une série. C'est carrément certain. Et puis, la dernière qui nous reste dans l'Est, Cavaliers, Knicks. Les Knicks mènent présentement 2-1. Il y a une rencontre qui sera disputée cet après-midi, mais au moment où on enregistre, ce n'est pas encore fait. Qui peut l'emporter? C'est une série, moi j'ai l'impression qu'il peut aller assez loin, là, 6-7 matchs.
Probablement, tu as raison. Probablement, New York a réussi à gagner un match à Cleveland. Donc, on a commencé la série à Cleveland. Il ne faut pas oublier, on a la position de Cleveland, on finit numéro 4, New York numéro 5. Ils sont très, très similaires, là. Ça peut aller vraiment là, de côté ou de l'autre. Moi, je vais aller avec New York. J'adore Jalen Brunson. C'est drôle. Jalen Brunson, l'année passée, aide Dallas à se rendre en finale de l'Ouest. Cette année, il signe avec les Knicks, quitte Dallas. Dallas avec Kyrie Irving ne font pas les séries. Lui, il a une chance d'amener les Knicks, comme c'est historique, qu'est-ce qui se passe pour New York depuis très longtemps. On a volé un match à Cleveland. Moi, je pense que New York va aller chercher cette série-là, probablement 4-2, donc en 6 matchs.
J'aurais souhaité le contraire. J'aurais souhaité Cleveland, moi, à avancer. J'aime bien Donovan Mitchell. J'aime bien ce qui se fait chez les Cavaliers. Mais je suis conscient que le momentum est du côté de New York actuellement. On va se transporter, Pascal, du côté de la conférence de l'Ouest. Hier, les Lakers ont pris une avance de 2-1 contre les Grizzlies de Memphis dans cette série où il y a beaucoup de tension, je dirais, et où c'est un peu une bataille de jeunesse contre expérience.
Ben, tension imaginaire de Dylan Brooks qui fait des commentaires parce que son agent lui demande de tu dis le mot LeBron James dans les médias, puis tout le monde va cliquer pour voir qu'est-ce que tu parles. Fait que je pense que c'est un petit peu exagéré ses commentaires, mais regarde, tu veux jouer à la vedette, puis tu veux parler que LeBron il est vieux, puis s'il fait pas 40 points contre toi, t'es pas impressionné. C'est correct. Je pense que le match numéro 2, à Memphis, que les Lakers ont perdu. Pour moi, ils auraient dû gagner ce match-là. Parce que Ja Morant s'était blessé au poignet. Il n'a pas joué le match, mais Tyus Jones, on le considère comme le meilleur numéro 2 au niveau des meneurs dans la NBA au complet, là. Fait que, si tu prends la liste des matchs que Ja Morant a manqué avec Memphis, ils n'ont pas manqué. Sans enlever le fait que c'est une superstar, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, ils sont capables de gagner des matchs sans leur vedette. Ils l'ont démontré pendant la saison. Donc, je n'étais pas surpris que Memphis gagne. J'étais surpris de la façon que les Lakers sont arrivés sur le terrain, non motivés. Ça aurait dû être un match beaucoup plus serré. Okay? Et puis là, on revient à hier soir. Écoute, je pense qu'ils ont donné 9 points au premier quart
Ouais,
à
35-9, ça a
Memphis.
fini ce premier
35-9.
quart-là.
Fait qu'ils ont donné un punch. Et là, on l'a vu que les vieux Lakers, si je peux dire ça,
Ouais, c'est ça.
ont donné un punch au début, parce que quand tu es plus vieux, tu es pas mal prêt à jouer au début. Memphis est revenu. Écoute, Ja Morant, je pense qu'il a fini 43 points. Il était spectaculaire dans le match. Mais c'était pas assez. Ça finit 111 à 101. Un bon quatrième quart pour Memphis. On donne un petit push, mais jamais assez. Parce que justement, la côte était trop haute à monter pour Memphis, là. Puis une belle performance d'Anthony Davis qui a rien fait au match numéro 2. Fait que pour moi, si LeBron va toujours quand même bien jouer, c'est dans les 20-25 points, il va laisser les autres joueurs performer comme Reeves puis Hachimura. Mais Anthony Davis, n'importe quel match qu'Anthony Davis fait 25-30 points, je vois pas comment les Lakers vont perdre ce match-là. Je m'attends à ce que
Absolument.
Los Angeles gagne la série contre Memphis.
OK, ouais, intéressant. Mais je pense que le momentum est de leur côté encore, mais à 2-1, tu sais, ça peut. Tu t'en échappes deux et tout d'un coup, la série peut être de l'autre côté. L'autre club de Los Angeles, c'est plus compliqué. Les Clippers ont perdu Kawhi Leonard pour une durée indéterminée. Ils sont maintenant en retard 3-1 contre les Suns de Phoenix, au bord du gouffre. Mais moi, je pense pas qu'ils s'en sortent.
C'est fini. C'est fini. Et j'ai même entendu plusieurs analystes, dont Stephen A. Smith, qui disaient que Kawhi prend sa retraite. Pas
Ah
méchamment, mais
oui.
oh, écoute, il est toujours blessé. Et on parle de sa blessure au genou. On a déjà perdu Paul George. Tu sais, je te donne l'exemple de Milwaukee perd contre Miami à cause du dos de Giannis. Giannis, blessé, ne joue pas. Là, tu as Paul George et Kawhi Leonard, deux joueurs dans les 75 meilleurs joueurs historiquement de l'histoire de la NBA. Deux stars qui peuvent amener une équipe, Kawhi l'a démontré avec Toronto, dans un championnat. Et ces deux joueurs-là ne jouent pas. Oublie ça, c'est fini. Phoenix avec Kevin Durant maintenant, puis Devin Booker, c'est trop. Cette série-là va finir 4-1. Je ne m'attends pas à ce que Los Angeles gagne un autre match. Puis c'était juste trop.
Puis tu sais, quand tu dis qu'il joue pas, là, Kawhi Leonard, sur les 6 dernières saisons NBA, jouait 230 parties de saison régulière. Ça fait une moyenne de 38 par année, alors qu'il y en a 82 sur un calendrier.
Exactement.
C'est même pas la moitié.
Puis une chance que la NBA, les contrats sont garantis parce que tu es payé, que tu joues ou non.
Oui, c'est ça. Il fait son argent pareil.
Ah oui. Mais honnêtement, je pense que... Tu sais, j'adore Kawhi Leonard, là, mais il y a des athlètes que les blessures ont vraiment gâché leur carrière.
Ouais.
Overall. Puis dans le cas de Kawhi, on est plus près de la fin que du début à cause de ça. T'sais. La seconde que tu commences à, que ton corps commence à se blesser comme ça pour différentes raisons, c'est au lieu de passer du temps dans le gymnase, dans la salle de réhabilitation, c'est vraiment pas facile. Puis tu sais, que ce soit lui ou Paul George, je pense que Paul George va revenir quand même très bien.
Ouais.
Mais tu te souviens, Paul George, quand il était jeune, a subi une il s'était brisé le.
Ouais,
c'était quand même cassé le genou.
Ouais,
là,
au camp de USA, là, ça,
au camp
c'était.
USA.
Ouais. C'était une grosse blessure, ça.
Los Angeles, en santé, je les voyais quasiment en finale de l'Ouest. Et
ouais.
peut-être en finale NBA cette année. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. Phoenix avec Kevin Durant, Chris Paul, DeAndre Ayton. Écoute, Phoenix, probablement qu'ils vont être en finale de l'Ouest cette année.
Oui, je pense que ça se peut très bien. Puis quand on regarde les deux dernières séries, bon, Nuggets Timberwolves, ça c'est pratiquement fini. Hein? Denver mène 3-0. Historiquement, les équipes ne reviennent pas d'un déficit comme ça. Mais je voulais avoir tes commentaires plutôt sur Kings Warriors. C'est 2-1 pour Sacramento qui pourrait gagner une première série éliminatoire depuis belle lurette, hein, depuis plus que 15 ans, tandis que les Warriors sont les champions en titre et ont un honneur à défendre.
Ben écoute, j'adore Sacramento. Je les ai suivis toute l'année. J'étais un fan de Mike Brown, qui était un des premiers entraîneurs de LeBron James à Cleveland. Puis tu sais, ce qui est un peu ironique, c'est que Mike Brown a eu beaucoup d'offres, mais a resté avec les Warriors pendant le temps qu'il gagne les championnats.
Mm-hmm.
Il connaît exactement qu'est-ce que Steve Kerr fait, qu'est-ce que les Warriors font. Fait que c'est quasiment c'est un énorme avantage pour Sacramento au niveau de préparation de match. Et ils sont jeunes, ils sont athlétiques. Et De'Aaron Fox, wow! Ils ont donné un nouveau trophée cette année qui s'appelle le joueur le plus clutch, probablement en fin de match. Et c'est De'Aaron Fox qui l'a gagné. Et avec Ja Morant, c'est probablement le joueur le plus rapide avec le ballon dans la NBA. Là. Comme quand il part full speed, oublie ça, t'es mieux d'aller prendre un café parce que tu vas pas le rattraper. Mike Brown a été nommé le coach de l'année.
Mm-hmm.
Avec Sacramento. Puis je ne sais pas si tu es au courant, mais notre probablement le coach canadien qui a le meilleur historique dans la NBA, Jay Triano, est un des assistants avec Sacramento.
Ça fait un beau personnel.
Exactement. Mais moi, je pense que Sacramento va gagner la série contre les Warriors. Trop comme on, un peu, tu sais, quand tu parlais d'âge avec Memphis et Los Angeles, tu sais, ils sont pas. On n'a pas des joueurs de 38-39 ans à la LeBron James avec Golden State. Draymond Green est quand même 35-36 ans. Fait qu'ils sont quand même pas jeunes. Mais ça va peut-être être. Le match clé pour Golden State doit absolument gagner le match numéro 4 chez eux. Parce que s'ils perdent ce match-là, c'est sûr que Sacramento gagne la série.
Là-dessus, on dit merci pour ton analyse sur les différentes séries dans la NBA. On va regarder ce qui va se dérouler au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là. Puis on te souhaite de bonnes séries NBA.
Un plaisir. À
Donc,
bientôt, William.
À bientôt, Pascal. Au retour de la pause, entrevue avec l'une des deux nouvelles acquisitions de l'Alliance de Montréal au cours du repêchage U-Sport. On termine maintenant cette émission d'Alley-Oop 360 avec une entrevue avec l'un des nouveaux joueurs de l'Alliance de Montréal cette semaine. Il y a eu le repêchage U-Sport dans la LECB. Donc, il y a eu 20 joueurs des universités canadiennes qui ont été sélectionnés pour se rendre jusqu'au niveau professionnel cet été. Il y en a deux qui ont été sélectionnés par l'Alliance de Montréal. Le premier, c'est un Ontarien, Aryan Sharma, qui jouait à l'Université Western, qui a été choisi deuxième. Et au deuxième tour, 19e au total, c'est Baïd Adara, qui est surnommé Daddy, qui est là aujourd'hui. On le reçoit en entrevue pour discuter de son parcours, discuter de ses objectifs cet été avec l'Alliance de Montréal. Donc, bienvenue à l'émission, tout d'abord.
Merci, merci.
Et puis, j'avais envie de te demander, en commençant, comment se sont passés tes derniers jours? Parce que là, tu as été repêché pour jouer au basket professionnel après quelques années à l'université. C'est quoi le sentiment? Ça a été quoi la réaction de ton entourage, de tes proches?
C'est un gros accomplissement pour moi parce que je pense que en revenant aux des États-Unis pour jouer à Montréal, je pense que c'était un de mes buts. Et je pense que quand je suis revenu, puis je parlais avec le coach de l'UQAM et les coachs des autres universités à Montréal pour voir où j'allais aller. C'était un des buts premiers que je parlais avec le coach d'essayer de jouer pour l'Alliance. Alors, le fait que ça a marché cet été, je suis vraiment content. Les gens autour de moi sont vraiment contents.
Donc, c'était quelque chose que tu visais jouer pour l'Alliance. À quel point est-ce que tu regardais ce qui se passait l'été dernier? Tu sais, t'avais des connaissances à travers l'équipe. Est-ce que c'était quelque chose que tu regardais de près, justement, la première saison de l'Alliance à Montréal?
C'est sûr, c'est excitant. Moi, tous mes amis, on était là presque tous les matchs l'année passée. Et un de mes meilleurs amis, Alain Louis, il joue dans l'équipe. So, j'étais là tous les matchs pour supporter aussi. So, ouais, c'est quelque chose qui apporte un grand engouement à la ville. Je pense que tout le monde aime ça. Surtout un sport comme le basket qui grandit aussi ici au Québec. Je pense que tout le monde aime ça, qu'il y ait une équipe à Montréal. Et, ouais, c'est bon.
Puis, justement, tu me mentionnes qu'Alain, c'est l'un de tes bons amis. Il a re-signé un contrat, lui, pour revenir cet été. Donc, ça va être sa deuxième saison. Il faisait partie de la première édition. Et ça a été quoi sa réaction à lui quand tu lui dis « Ah, je vais jouer pour l'Alliance avec toi cet été »
Je pense qu'on était tous super contents, moi, lui, tout mon groupe d'amis, on était super contents parce que déjà l'année passée, c'était vraiment un beau feeling de le voir jouer lui sur le terrain. Je pense que c'était comme peut-être c'était un bon accomplissement, comme on est super fiers, comme on est juste comme super nice de pouvoir jouer ensemble pour la première fois depuis qu'on joue au YMCA, on jouait dans l'équipe du YMCA. Enfin, qu'on va rejouer ensemble. Depuis qu'on a comme 15-16 ans.
Donc, non, c'est ça, le sentiment doit être spécial. Puis tu me parlais du développement du basket aussi. Toi, ça fait évidemment, ça fait plusieurs années que tu y joues. Tu as passé ton adolescence dans les gymnases de basket. Tu viens de Montréal. À quel point est-ce que maintenant, on est rendu en 2023, tu vois une évolution de ce sport-là à travers les années? En termes de popularité, puis en termes de à quel point il y a des gens qui veulent jouer puis qui s'intéressent à ça.
Moi, je vois juste l'évolution en plus comme une opportunité parce que, on va dire, quand j'étais plus jeune, même à la radio, n'importe quoi, j'entendais pas vraiment parler du basket. Les gens qui se sont fait repêcher à la NBA aussi, les Québécois qui se sont fait repêcher à la NBA, je pense que ça aussi, ça a aidé vraiment et ça a amené comme, ça a ouvert les yeux aux Québécois comme, oh, le basket, un sport intéressant et tout. Donc, je pense que c'est juste comme, ça a juste grandi. Ça a vraiment grandi au Québec, le basket, depuis 10 ans, depuis que j'ai commencé.
Et ça risque de continuer dans ce sens-là. Plus il y a des gens qui viennent voir l'Alliance, plus il y a des Québécois qui sont repêchés dans la NBA, comme tu le dis. Donc, je pense qu'on est bien positionné personnellement pour ça. Est-ce que tu t'attends à une continuation de cette évolution-là, toi aussi?
Ouais, c'est sûr que je m'attends à une continuation, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui jouent au basket. Partout au Québec, il y en a vraiment beaucoup, vraiment plus que quand moi j'étais jeune. Ouais, je suis sûr qu'il va y avoir une continuation de l'agrandissement de la communauté de basket à Montréal et au Québec.
Et quand on regarde plutôt, donc, on revient sur ton profil de joueur pour quand même te faire connaître par les auditeurs. Tu as été le seul joueur qui a été repêché en partant du RSEQ, donc du basket universitaire québécois. Est-ce que c'est une certaine fierté pour toi? Comment tu réagis par rapport à ça?
C'est sûr que c'est une fierté pour moi d'avoir été repêché dans la RSEQ, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres talents dans la RSEQ qui auraient pu se faire repêcher par la LECB. So, ouais, je pense que je suis super fier, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, il y a d'autres joueurs dans la RSEQ qui auraient pu se faire repêcher aussi.
Et ces gens-là peuvent sûrement signer des contrats aussi cet été dans la LECB. Ça pourrait se faire. On va leur souhaiter on peut passer par le repêchage, mais des contrats aussi. Donc, on va souhaiter justement à ces joueurs-là de pouvoir être signés, puis pouvoir jouer professionnel cet été. Puis de ton côté, tu vas le faire à la maison, donc à domicile, à l'Auditorium de Verdun, à Montréal. Parle-moi un peu de Parce que là, le premier match, quand même, mine de rien, 26 mai, c'est dans à peu près un mois. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Là, tu vas porter un uniforme d'une équipe professionnelle à Montréal avec tes amis dans l'équipe, tes amis dans les estrades, sûrement ta famille. Comment ça va se passer?
J'ai super hâte, comme les 3 dernières années, je les ai passées aux États-Unis. Quand tu joues aux États-Unis, y a pas vraiment, tu vois pas vraiment des visages familiers. Alors, depuis même que je suis revenu à l'UQAM, ma famille et mes amis sont venus me voir jouer. C'était vraiment un feeling qui était spécial. Jouer pro, c'est un rêve que je pense que tout basketteur a, même si c'est pas la NBA, même si jouer pro, c'est juste un accomplissement dans ta carrière. Alors, ouais, ça va être super spécial, ça va être vraiment spécial, ça va être... Je vais adorer, c'est sûr, je vais adorer.
Parlons de ta saison à l'UQAM, parce que là, tu as passé 3 ans dans la NCAA aux États-Unis, et là, tu es revenu ici. Tu as été nommé joueur défensif de l'année au universitaire québécois. Est-ce que c'est un À quel point c'est un aspect, la défense, que tu take pride, que tu es fier de mettre de l'avant, puis tu es fier de travailler, puis tu es fier d'appliquer sur un terrain de basket, là?
Parce que ça, c'est une affaire qui est juste en moi naturellement. J'aime juste pas le fait que mon joueur score sur moi. Alors, je pense que j'amène beaucoup d'énergie en ce côté-là. Puis surtout, ça aide l'équipe. Surtout quand, on va dire, l'équipe a pas de momentum offensivement. On peut l'aider avec la défense, quelques steals, quelques blocs. Ouais.
Si tu avais à te décrire en tant que type de joueur, parce que tu es un meneur de 6 pieds 7 pouces, donc c'est quand même grand pour cette position-là, quelles sont tes forces en tant que joueur de basket, mis à part la défense, bien sûr, puis qu'est-ce que tu aimerais travailler aussi?
Je pense que je suis très fort en transition, et aussi, je pense que j'attaque bien, je finis bien au panier. Je pense que j'aimerais travailler plus mon tir pour qu'il soit vraiment plus constant. Je pense que c'est quelque chose que je dois vraiment améliorer.
Puis, quand on regarde ton parcours, là, bien sûr, il y a l'UQAM, mais il y a 3 ans d'expérience NCAA aussi. Tu as passé 2 ans à George Mason, ensuite tu es allé 1 an à San Francisco, New York. Comment ça s'est passé, ces 3 années universitaires américaines, et comment ça va t'aider chez les professionnels en termes de ce que ça t'a apporté?
Ma première année à George Mason, j'ai cassé mon poignet. Alors déjà là, c'était un peu tough au mental parce que je jouais pas, je faisais juste regarder. Mais à la moitié de l'année, j'ai pu retourner, recommencer à pratiquer. Et là, ça m'a vraiment pris comme un bon moment pour juste comme retourner dans la game. Mais ma deuxième année, c'était vraiment nice. C'est là que j'ai vraiment amélioré ma défense parce que je pense que c'est ça que notre équipe avait besoin de moi. J'ai vraiment, vraiment amélioré ma défense et je pense que j'ai vraiment appris à quel point l'importance de la défense. À San Francisco, j'ai vraiment plus amélioré mon jeu offensif. J'étais plus libre de jouer, j'avais plus confiance en moi. Et ouais, je pense que ça m'a rendu vraiment plus tough mentalement et physiquement. Je pense que c'est une expérience que tout le monde devrait vivre là. J'ai vraiment plus rapide, plus strict, plus coordonné.
pense que c'est une bonne expérience en gros.
Et le fait d'avoir joué universitaire américain, puis aussi universitaire québécois, est-ce que le fait d'avoir joué dans comme deux systèmes, ça peut t'apporter quelque chose, ça aussi?
Ouais, je pense que plus d'expérience t'as, avec plus de différents coachs, plus de différents teammates, t'apprends vraiment plus de choses. Ça, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Ouais, ça m'a apporté beaucoup.
Et là, tu arrives cet été avec bon, des objectifs personnels, certainement. Est-ce que tu t'es déjà un peu fait une liste mentale de ce que tu avais envie d'accomplir cet été ou plutôt tu t'étais écrit des objectifs, quelque chose?
Je suis pas vraiment mis des objectifs, je me suis juste dit j'allais aller là, donner mon meilleur, essayer de faire de profiter le plus de cette expérience, c'est ça.
Puis, bon, t'as communiqué évidemment avec Alain, mais est-ce que tu as pu discuter avec d'autres coéquipiers ou encore le personnel d'entraîneur, le DG, peut-être Joel Anthony? Est-ce qu'on t'a parlé du rôle qu'on aimerait te donner au sein de cette équipe-là? C'est quoi les plans pour toi? C'est quoi les conversations que tu as eues avec le club?
En fait, j'ai une conversation avec Joel Anthony à propos du repêchage, à propos de l'équipe et comment il allait la construire. Ouais, il m'a donné un petit boost de comment la saison allait se passer. Je m'attendais pas à grand-chose vu que je suis un joueur universitaire et qu'il y a plein de joueurs pro sur l'équipe. Mais il m'a donné un petit boost de confiance. Ouais.
OK, quand tu dis un boost de confiance et s'il t'a montré qu'il croyait en toi puis que tu avais de l'importance?
Que j'avais ma place dans l'équipe, que ça allait être, il allait me donner une chance et que je vais pouvoir jouer cette équipe.
Puis j'ai envie de te demander aussi, parce que ça c'est une question que j'aime bien poser. Quand tu regardes, j'imagine que tu suis la NBA, en grandissant, ça a été qui les joueurs que tu regardais? Les vedettes, tes joueurs favoris, puis tu disais, moi, je veux être capable de jouer comme celui-là, ou comme, tu le regardais dans ta télé, puis tu faisais, OK, lui, là, vraiment, j'ai envie de faire comme qu'il fait.
En étant vraiment plus jeune, j'adorais Vince Carter, c'était mon joueur préféré. Je trouvais même que j'avais des gros débats avec mon frère et je lui disais qu'il était meilleur que LeBron James. En vieillissant un petit peu, LeBron James a été mon meilleur joueur toute ma vie. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur joueur que lui qui a joué au basket. So, ouais. Regardez tous ces matchs. Je suis un gros fan jusqu'à maintenant, même si les Lakers, les gens doutent d'eux cette année. Moi, je les supporte à 100%.
Mais là, ils sont en train de gagner leur série contre les Grizzlies. Tu les
Ouais.
mets jusqu'où, les Lakers, dans les séries actuellement?
Conference Finals, la finale des conférences, c'est sûr
OK.
que c'est la conférence.
OK. Puis c'est qui sera en finale à leur place? C'est qui les bat?
En fait, moi, je dis pas qu'ils vont les battre, mais dans ma tête, ils vont au final, mais j'essaie de rester un peu réaliste. So, je pense que Phoenix Suns vont aller en finale,
OK.
mais je pense que les Lakers vont lui donner une bataille.
Non, mais les Lakers et les Grizzlies, hein, en effet, c'est une série qui est bien intéressante jusqu'à maintenant. Puis bon, je veux revenir un peu juste sur l'alliance en termes de. Bon, là, tu vas jouer quelques mois professionnel cet été, mais après, le plan ressemble à quoi? Est-ce que le but, ce serait d'aller peut-être overseas, aller jouer professionnel en Europe ou ailleurs dans le monde? Ou tu retournes à l'université, parce que des fois, il y en a qui le font aussi.
Ouais.
Comment ça fonctionne?
En fait, non, moi je vais retourner à l'université l'année prochaine. Il me reste à peu près 6 cours avant d'avoir mon diplôme.
OK.
Alors, je vais finir mon diplôme et puis après, on va voir les plans pour ma carrière professionnelle.
Et à quel point est-ce que tu penses que jouer pour l'Alliance cet été va t'aider quand tu vas retourner à l'UQAM, puis là maintenant tu vas être comme OK, cet été j'ai joué contre des gars professionnels tout le long, puis là je reviens à l'université, donc j'imagine que ça peut te donner un avantage.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que les joueurs professionnels, t'as beaucoup à apprendre de eux, vu que c'est ça leur travail de vie. Ils se prennent beaucoup plus au sérieux, ils ont plus, leur jeu est vraiment plus physique, plus rapide. So, il y a beaucoup de choses à apprendre de eux. So, c'est sûr qu'en revenant à l'UQAM, je vais avoir quelques trucs de plus dans mon sacoche. Ouais.
Je voulais te demander, en terminant, bon, la saison, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, commence dans un mois. Mais avant ça, bon, il y a le camp d'entraînement, puis j'imagine que tu vas te préparer toi aussi. À quoi ça va ressembler les prochaines semaines pour toi avant de commencer cette saison régulière?
En fait, j'ai commencé à m'entraîner à peu près il y a 2 semaines avec Alain.
OK.
De 6h, on a mon ancienne école secondaire Saint-Laurent qui nous laisse venir s'entraîner là le matin à 6h30. Après 6h30 à 8h. Après un peu de muscu, retourne jouer au basket vers 5-6h. C'est ça une journée. C'est une journée.
Comment se passe la préparation jusqu'à maintenant? Est-ce que tu te sens en forme et apte à jouer du basket de haut niveau?
Je pense que je suis vraiment en forme. Je pense que c'est une de mes meilleures formes de ma vie. Je pense que ouais, je suis prêt.
Ben, je veux te remercier d'avoir pris le temps d'être passé à l'émission. Merci beaucoup. C'est Baed Aldara, qui est la nouvelle acquisition de l'Alliance de Montréal via le repêchage. Puis, je souhaite une très, très bonne saison professionnelle avec l'Alliance.
Merci beaucoup. Merci.
Donc, merci encore d'avoir été là. C'était Baed Aldara de l'Alliance de Montréal. Merci beaucoup de son passage. Et je veux remercier également les autres personnes qui ont participé à cette émission, Pascal Jobin et Charles Dubébret, qui sont venus analyser les séries éliminatoires de la NBA. C'était l'émission d'Alley-Oop 360. Je m'appelle William Thériault. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve dimanche 15h la semaine prochaine à BPM Sport. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site pour toutes les nouvelles NBA et LECB.